Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous prenons place aux côtés d'un admirateur des êtres à plumes et des anciens vergers de nos contrées. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Gabriel Bertin, je suis le maire du village de Rivière, à 10 km au sud d'Arras. J'ai l'impression que j'ai passé presque toute ma jeunesse dehors, hein, au contact de la nature, dans les arbres, à observer, à écouter, à prendre le temps d'écouter. Un endroit où c'était fort important, ce côté contact et écoute avec la nature, une connexion naturelle avec la nature. C'était dans le village de Rivière, parce que mes parents partaient pas en vacances, loin, et finalement, on partait en vacances chez les grands-parents, chez la tante, qui habitait Rivière. Moi, je suis originaire du petit village de Bailleul-sur-Bertou, qui est à 10 km au nord d'Arras, et nous allions en vacances dans le petit village des grands-parents et de la tante. La nature m'est très familière, et tout le monde vivant dans cette nature, voilà, j'ai l'impression que de les connaître, mais je sais qu'il, voilà, qu'il y a une, comme s'il y avait une connexion avec toutes mes fibres. Il y avait un peu un modèle, c'est mon père, je le voyais souvent quand j'étais tout petit, observer avec des jumelles, et prendre le temps d'écouter, d'observer, essayer de comprendre quel petit oiseau on entendait chanter, etc. Donc finalement, moi, naturellement, sans le savoir, j'ai pris un peu ce pli et je me suis intéressé à cette écoute, notamment des oiseaux, mais pas que. Hein. Puis à comprendre l'observation et comprendre le comportement aussi. Et parce que l'écoute de la nature, c'est plein de petites choses. Hein. Il ne suffit pas de dire « j'entends le chant d'un oiseau que je sais reconnaître hein. ». Maintenant, avec les moyens modernes, on écoute sur Internet l'oiseau, puis on se dit « voilà, bon, c'est ce chant-là ». Non, et la nature, c'est bien plus riche, parce que c'est à la fois du comportement, le comportement de l'être vivant, qu'est l'oiseau par exemple, va nous indiquer s'il est bien, s'il se sent bien, s'il se sent en sécurité, ou s'il est en alerte, s'il est en train de parler à ses petits. Voilà, il y a un tas de conditions. Et même dans sa façon de voler, de se comporter dans les branches d'un arbuste. Ça, c'est magique. Quand je vois un buisson vibrer, et la façon dont vibrent les branches, je sais quel oiseau c'est. C'est une richesse que je ne soupçonnais pas, et que j'ai découvert bien plus tard, en disant, bah, finalement, par rapport à d'autres personnes qui ne connaissent pas trop tout ça. Hein. Voilà, et j'ai bien sûr, très vite, j'ai eu envie de transmettre ces informations-là, cette capacité d'observation, de connexion. J'ai eu envie de la transmettre à d'autres. Après la trentaine, j'ai eu envie d'organiser des petites balades, voilà, pour faire découvrir tout ça à d'autres personnes. À bicyclette. J'ai fait des études d'ingénieur en travaux publics, mais finalement, je me suis orienté dans l'industrie automobile. J'étais dans une grosse usine près de Douai, dans le Nord. La grosse usine Renault. À l'époque, quand je suis rentré dans cette usine, c'était de l'ordre de 9000 personnes. Donc c'était un mastodonte où j'ai pu découvrir différents métiers. Et surtout, ce qui est magique, travailler dans cette grosse entité, c'est la relation avec les gens. Et surtout avec tous les ouvriers, avec tous leurs métiers. Et ça me fait penser un peu au côté nature. Il faut aussi apprendre à écouter les gens, se mettre en connexion avec eux, travailler ensemble, de construire des choses ensemble.
Que restera-t-il sur la terre ? Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en trois mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son ?
vivant, c'est un peu tout à la fois. C'est un monde qui t'observe et que tu ne vois pas toujours et dont tu ne perçois pas tout. Et ça, c'est ça qui est magique. Quand tu te promènes dans un endroit nature, tu as l'impression de ne pas voir beaucoup de choses. Si tu cherches des choses qui vivent, voilà, du vivant, un oiseau, un petit être, sache que tu es observé par plein de choses. Et donc, c'est ça qui est magique. Et cette observation-là, c'est aussi lié à des perceptions de couleurs, de choses qui bougent, qui vibrent. Et d'ailleurs, souvent, pour bien appréhender ce monde vivant que tu ne vois pas, il faut s'arrêter, ne plus faire de bruit, te poser, idéalement t'asseoir, et puis attendre et observer ce qui se passe. Après, au bout de quelques minutes, peut-être parfois un peu plus longtemps, tu vas voir des choses. Tu vas deviner que là, il y a une feuille qui a bougé. Donc il y a quelque chose qui vit en dessous de cette feuille. Et puis à un moment donné, tu vas voir une petite fourmi. Tu y vas. Un vert tendre. Les premières feuilles au printemps. Cette renaissance d'une nature un peu endormie pendant l'hiver. Le premier bourgeon qui va commencer à s'ouvrir. Et tu vois apparaître un tout petit bout de feuille. D'un vert. D'une tendresse magique. Alors l'odeur, c'est l'odeur un peu de champignons. Quand tu as un sol couvert de feuilles qui a travaillé, on sait que tu as passé tout l'hiver, il y a tout un tas de monde vivant dans ce sol. Si tu touches un peu, tu remues un petit peu les feuilles, ou tu marches à cet endroit-là, et tu vas sentir cette odeur de champignons. Plein de champignons dans le sol, les parties qu'on ne voit pas. Et c'est cette odeur de sol, de terre. Et en fait, c'est pas vraiment de la terre toute seule, c'est tout un monde vivant, et notamment le parfum du champignon. Un son, le chant ou un petit cri d'un oiseau, tout petit, très discret. Un goût magique, parce que le goût, c'est avant tout, c'est le parfum. Le goût, c'est surtout lié au nez, perception de nasale. Le goût d'une fraise, toute fraîche que tu cueilles, tu la mets à ta bouche, mais juste sous ton nez, le parfum, et tu commences à croquer la fraise sans l'avoir lavée. Parce que c'est là que tu as tout le parfum magique. Alors là, c'est le paradis. Texture. Moi, j'aime bien mettre mes mains dans les herbes et frotter les feuilles avec délicatesse.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclones en rafale.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Le monde vivant, le vivant, c'est au cœur de mes préoccupations. Et ça doit être un centre d'intérêt principal de tous. Ce qui n'est plus vraiment aujourd'hui, en tout cas tu le sens de moins en moins, dans beaucoup de choses qui nous environnent. Dans des prises de décision. Et ça, je trouve ça très très ennuyeux. Ma démarche de fond, c'est de tout faire pour réexpliquer toute l'importance du vivant et que nous, êtres humains, nous ne devons surtout pas nous considérer supérieurs parce qu'on a des capacités de création, de technologie. On ne connaît qu'un très faible pourcentage de tout ce monde vivant. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, on ne sait pas encore. Et on devrait tous s'extasier, se mettre à genoux devant cette magie du monde vivant et comprendre, dans ce cas-là, à quel point il faut tout faire pour l'admirer, le respecter. Donc c'est ça qui est important à mes yeux. Et c'est aussi ce qui me pousse, qui me donne énormément d'énergie pour faire passer ces messages.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
L'humain doit se reconnecter avec ce monde vivant et en comprenant que ce monde vivant fait en sorte que nous, l'humain, nous vivons. Un objectif prioritaire, et ça c'est vital, c'est le cas de dire, on doit tout faire pour respecter ce monde vivant qu'on ne connaît pas. on connaît très très peu de choses. C'est le mystère de l'inconnu. Attention, nous sommes allés très loin dans le mal qu'on a fait à ce vivant. Il faut très vite arrêter ce schéma mortifère. J'avais vu et lu des choses concernant dans des contrées très éloignées, très sauvages, forêts amazoniennes, etc. Personnes là qui vivaient de cueillette et de pêche, de chasse, etc. Effectivement, mais avaient un énorme respect. Quand ils prélevaient, ils tuaient un animal pour se nourrir, ils priaient les dieux de la forêt. Hein, voilà, tu vois, cette notion, grand respect de la nature en disant, voilà, on a conscience qu'il faut le faire, il faut pour nous nourrir ce qu'on fait, y compris pour nous nourrir, pour vivre, etc., pour nous habiller, etc., ne doit pas se faire de façon inconsidérée, illimitée, parce que tout ça vient de ressources de la nature, vient du vivant, hein, voilà, tout simplement. Et c'est essentiel de comprendre ça. Ça fait longtemps qu'on marche sur la tête. Ça fait longtemps qu'on fait des choses contraires à ce que nous devrions faire. C'est plus qu'une prise de conscience. Hein.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde...
On va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, qui a été diffusé semaine dernière en podcast sur le site de notre radio PFM, porté sur le rapport de WWF, publié en mai dernier, intitulé « État des lieux de la biodiversité dans les eaux françaises ». Celui-ci fait état que, contrairement aux ambitions de la directive cadre sur l'eau, pour un bon état écologique de tous les cours d'eau en 2027, seulement 43% des cours d'eau et plans d'eau en France sont en bon état écologique à l'heure actuelle, avec des espèces emblématiques comme la truite des rivières et la grèbe huppée particulièrement menacées. On parle notamment de la diminution de 40% des populations de truites et 80% de grèbe huppée, d'après les chiffres du Muséum d'Histoire Naturelle. Vous savez, le centre de référence des sciences naturalistes en France. En effet, les rivières ont été malmenées par les activités humaines depuis des décennies et particulièrement par l'agriculture intensive. L'intensification de cette activité et les aménagements qu'elle a suscités ont participé de manière forte à recalibrer les rivières, en les approfondissant et les élargissant, tout en retirant les haies, notamment les ripisylves qui bordent les cours d'eau. On parle quand même d'une perte de 43% entre les années 70 et 2006. Le drainage des terres qui l'a accompagné a aussi contribué à la disparition des prés, ainsi que des zones humides qui ont diminué de moitié entre 1960 et 1990. Or, les politiques de restauration des rivières mises en place depuis plusieurs années et les dépenses importantes accompagnant cette protection, plus de 500 milliards d'euros qui ont été déployés depuis 20 ans, n'ont pas réussi à contrebalancer l'ensemble des dégâts infligés à l'environnement. Dans ce rapport sont ainsi formulées un grand nombre de recommandations pour réorienter les efforts en faveur d'un bon état écologique des cours d'eau. Parmi elles, on peut retenir le déploiement des paiements pour services environnementaux, les fameux PSE, permettant de rémunérer les services environnementaux rendus par les agriculteurs pour des actions portant sur la gestion des entités paysagères, les haies, les mares et l'amélioration des pratiques agricoles. Mais également le développement de la fiscalité de l'eau via le principe de pollueur-payeur et bien entendu la révision du plan stratégique national qui décline la politique agricole commune en France pour en faire un levier d'une transition agroécologique d'envergure en finançant à la hauteur des efforts les agriculteurs agissant en faveur du vivant, à l'image de l'agriculture biologique et de l'agroécologie pour les plus connus. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Muette, la maman des poissons, elle est bien gentille.
Je ne suis pas du tout rassuré. Ce que je constate dans toutes les discussions, à la fois émanant dans les politiques, dans les collectivités, on a beaucoup ce discours de transition écologique, voilà, d'action pour préserver le vivant, pour améliorer la biodiversité, etc., etc., pour avoir des pratiques et encourager des pratiques agricoles, etc. Ce que je constate, et je ne suis pas le seul à le constater, c'est que ça ne va pas du tout dans ce sens-là. On a plutôt une aggravation et donc une dégradation du vivant et des milieux naturels. Le monde vivant ne se porte bien que si son biotope, c'est-à-dire l'endroit où il doit vivre, c'est-à-dire le réceptacle du vivant, est en bonne forme, est en bon état. Et un peu comme les cours d'eau, qui sont réellement de plus en plus en mauvais état, le sol également est de plus en plus en mauvais état, parce qu'il est de plus en plus exploité de façon intensive, en faisant recours non pas par des moyens naturels, mais par de la chimie. Et qui c'est qui décide des choses comme ça ? Ce sont des humains. On a une machine de guerre contre le vivant. On ne parle pas de la responsabilité de toute cette chaîne de décision qui induit cet écocide, le fait de tuer du vivant. Mais la nature, si on était face à face, les yeux dans les yeux avec la nature, on oserait la regarder, les yeux dans les yeux ? Elle nous dirait, mais vous osez, vous continuez de faire ça ?
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
Un livre qui s'appelle « La vie secrète des arbres » sous forme de bande dessinée, qui est très très agréable. On a envie de plonger dans le livre. Un autre livre que je recommande, qui lui explique bien ce qui est en train de se passer, lié à l'impact sur la santé, de l'évolution de la nourriture qu'on donne aux gens. Et quand on dit qu'on donne aux gens, mais on peut aussi dire vers les animaux, aussi, d'élevage. Ce livre s'appelle « Le suicide de l'espèce ». C'est de Jean-David Zetoun. En résumé, explique que l'industrialisation de la fabrique de la nourriture, c'est une fabrique de la malbouffe qui a un impact énorme sur la santé. Parce que tout le processus industriel, tous les processus industriels utilisés pour fabriquer cette nourriture, c'est tellement combiné avec des ajouts, des intrants, pour une manière à ce que les améliorants de la texture, etc., qui fait qu'au bout du bout, on nous donne à manger des choses qui sont très éloignées des intrants d'origine pour créer cette nourriture. Et en plus, cette nourriture est très mal assimilée, nos cellules en sont impactées, en sont perturbées, y compris dans les gènes. Et ça, les gens ne savent pas ça, à quel point c'est, et engendre des maladies, dont bien sûr toutes les familles de cancers. Cette notion de suicide de l'espèce, c'est ça. C'est qu'on sait que ce type de nourriture industrielle est très impactante, très très mauvais. De plus en plus, c'est ce qu'on donne aux gens et aussi aux animaux. Il faut prendre conscience à la fois, avoir confiance, par contre il faut être dans l'action. Parce qu'il y a beaucoup de notions de ne pas laisser faire, et moi j'insiste beaucoup là-dessus. On est responsable dans le fait de laisser faire des grosses bêtises comme ça. Et souvent il y a assez peu de personnes qui ont intérêt à continuer de dégrader, de faire des choses très mal, pour nous, pour la nature, pour tout le monde. Et il faut savoir leur demander des explications, interpeller leurs responsabilités. Être dans l'action aussi pour valoriser les belles actions. Il y a les deux. L'action pour valoriser les superbes actions, à prendre comme modèle. Il y a des gens qui se comportent bien vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis des animaux. Enfin voilà. Il y a tout un tas de choses qui sont belles, dont on parle très peu.
Voici que cet épisode avec ce passionné de l'eau qui court et du vivant qui s'y abreuve prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une feuille de chou fraîchement cueillie.
Mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.